Ici la Radio des Nations Unies. Aujourd'hui, de la grande salle de l'Assemblée au Palais de Chaillot à Paris, à l'occasion de la Journée des Nations Unies, nous allons transmettre une cérémonie organisée sous le patronage commun des Nations Unies et de la Fédération mondiale des associations pour les Nations Unies. En réalité, la Journée des Nations Unies se célèbre le 24 octobre. Mais pour bien marquer le pas des manifestations qui se dérouleront demain dans les 58 pays membres des Nations Unies, cette cérémonie se tient aujourd'hui à Paris. Le 24 octobre marque la date de l'entrée en vigueur, il y a 3 ans, de la Charte des Nations Unies. Et suivant la décision de l'Assemblée générale de l'année dernière, cette date sera désormais observée comme la Journée des Nations Unies. Voilà la raison d'être de la cérémonie solennelle dont vous allez entendre d'ici quelques minutes la radiodiffusion intégrale. Nous sommes dans le grand théâtre du Palais de Chaillot. Déjà, la salle est complète. Les fauteuils d'orchestre sont occupés par les membres des délégations à l'Assemblée générale,
par leurs invités,
par les membres de la presse et de la radio mondiale, par des observateurs accrédités aux Nations Unies et par les membres du secrétariat de l'ONU. Au balcon, nous voyons d'ici, il y a le public venu de Paris, de provinces, de pays étrangers, et par la voie radiophonique, nous allons tous, nous, le reste du monde, assister à cette cérémonie. Mais ici, au théâtre de Chaillot, comme d'habitude, la scène est décorée des pavillons des 58 pays membres des Nations Unies, qui entourent l'emblème éclatant de l'ONU, une projection polaire du monde en plâtre découpé blanc sur un fond de bleu clair. Devant ce fond de staff se dresse le pupitre des orateurs. De chaque côté se trouvent les fauteuils réservés au président de l'Assemblée générale, au secrétaire général de l'ONU, aux 7 vice-présidents et aussi présidents des commissions de l'Assemblée. Et aujourd'hui, les invités d'honneur seront M. Robert Schuman, ministre des Affaires étrangères de la France, qui sera accompagné par M. Jean Dupuis, président du comité exécutif de la Fédération mondiale des associations pour les Nations Unies. M. Nicolas Glebov, président du comité du personnel des Nations Unies, aura sa place également sur la tribune. Devant et un peu au-dessous du pupitre des orateurs, nous allons voir d'ici quelques moments les clairons de la clique de la Parisienne, la police de Paris. Et dans quelques minutes, ils feront retentir la sonnerie au drapeau. En effet, vous entendrez au drapeau même avant, car dans les coulisses du théâtre, il y a d'autres membres de la clique de la Parisienne, et les clairons que vous entendrez en deuxième lieu seront une espèce d'écho, un écho plus près, plus proche de la sonnerie au drapeau que vous entendrez au début de cette cérémonie. Ensuite, vous entendrez la lecture du préambule de la Charte des Nations Unies en français. Et puis, la cérémonie sera en cours. Et maintenant, les lumières du théâtre sont baissées. Au son des clairons, tous les projecteurs seront dirigés sur les deux drapeaux des Nations Unies. Les deux drapeaux qui se trouvent maintenant derrière le pupitre des orateurs sur la scène du théâtre. Le drapeau des Nations Unies, c'est l'emblème de l'organisation que nous avons décrit tout à l'heure, en blanc, sur un fond bleu clair. Puis, lorsque les projecteurs seront dirigés sur les drapeaux, qui seront tenus par deux des gardes des Nations Unies en uniforme, tous ceux qui vont participer aujourd'hui à cette cérémonie se lèveront et se tiendront au garde-à-vous devant ces pavillons de notre organisation mondiale. Mais maintenant, pendant que les assistants attendent le son des clairons au loin, voici notre explication en anglais de cette émission des Nations Unies. This is the United Nations. This afternoon, from the huge and beautiful theater of the Palais de Chaillot in Paris, which is the Assembly Hall of the United Nations, we are about to transmit to you a ceremony which will be held under the combined auspices of the United Nations and the World Federation of United Nations Associations. This celebration will mark United Nations Day. United Nations Day is in reality the 24th of October. In order, however, to give the impetus to similar celebrations which will be held tomorrow in the 58 countries which are members of the United Nations, we, at temporary headquarters in Paris, are marking United Nations Day today. The 24th of October marks the date on which, 3 years ago, the United Nations Charter came into force. By last year's decision of the General Assembly, the 24th of October will be the occasion for celebrations almost throughout the entire world. And for this reason, we are celebrating United Nations Day today by this solemn ceremony in the Palais de Chaillot. And here we are in this great theater of the Palais de Chaillot. Already, the theater is full. The orchestra seats are occupied to the last seat by members of United Nations delegations here for the General Assembly and by their guests, by members of the press and the radio of the entire world, by accredited observers who have been sent to the United Nations, and by members of the United Nations Secretariat and their friends. And in the balcony, all seats of which are already occupied, there is the public. The public which has come here from Paris, from the provinces of France, from foreign countries. And together, you and I, over the radio, that is, the rest of the world, will attend this ceremony here in Paris commemorating United Nations Day. Let us look for a moment as we wait for the ceremony to begin at this great theater. There is a stage of the theater, and the backdrop, as usual for all of these meetings of the General Assembly, consists of the 58 flags of the United Nations, a very colorful assemblage of flags here. They are arrayed in two groups. Between them, there is the emblem of the United Nations, the striking emblem of the United Nations as it has been translated here in Paris into a polar projection of the world surrounded by olive branches, all of this in a filigree of white plaster raised above a light blue background. And that is the colorful scene which we see as we look forward in this great theater. Beneath it, on the stage, we find the lectern of the speakers who will take part in this ceremony today. As we look down upon this stage, we can see already the Assistant Secretary General of the United Nations in charge of public information, Mr. Benjamin Cohen, who will be one of today's speakers. We also see Dr. Herbert Evatt of Australia, who is president of the General Assembly. Mr. Vyshinsky of the Soviet Union has just come in and shaken hands with Mr. Cohen, Dr. Evatt, and with Mr. Arkady Sobolev, who is another of the Assistant Secretaries General of the United Nations. Well, there on the stage, beneath this emblem of the United Nations, there is a raised platform. On each side of it, a United Nations flag. And for those who have never seen the flag or the emblem of the United Nations, just a moment to describe it. This flag is light blue, an almost solid light blue flag. But in the center of this field of light blue, there is once again the white and striking emblem of the United Nations organization. The world, seen from above the North Pole, surrounded by two olive branches. These flags are now reposing in their sockets on each side of this platform. In a few moments, you will hear the opening of this ceremony, which will be indicated by the sound first coming from far of the trumpeters of the Paris police. And that sound will be the stirring call to the color. Then other members of the corps of trumpeters of the Paris police will take up the refrain in a kind of nearer echo coming from the theater from this assembly hall itself. And as these trumpets sound through the colors, all of the lights in the theater, which are at present dim, will be directed toward these two flags, which then will be raised by two members of the United Nations Guard Force, who will be in uniform this afternoon, and the audience will rise and stand at attention in respect for the flag of the United Nations. When the trumpet call has ceased and people throughout this vast theater have taken their seats once again, you will hear first the preamble to the United Nations Charter, which will be read in French by a member of the Secretariat of the United Nations. But to come back to our description of the stage of this theater today, there is the lectern of the speakers who will take part this afternoon. And on each side of that lectern, there are armchairs reserved for the President of the General Assembly, that is Dr. Everett of Australia, for the Secretary General of the United Nations, that is Mr. Trygve Lie, whom we just saw coming out onto the stage, for others of the Secretaries General of the United Nations who are at present in Paris, notably Mr. Benjamin Cohen, who will be one of the speakers today, and we see also Mr. Arkady Sobolev, as we mentioned a moment ago, and Dr. Ivan Kerno of Czechoslovakia. There will be other chairs for the seven vice presidents of this third session of the General Assembly, and for the presidents of the six committees of the Assembly, and then for the guests of honor. The guest of honor today will be Monsieur Robert Schuman, the foreign minister of France, who will also address this assembly. Another guest of honor will be Monsieur Jean Dupuis, who is president of the Executive Committee of the World Federation of United Nations Associations. Another chair is on the platform for Mr. Nicholas Glebov, who is president of the Staff Committee of the United Nations Secretariat. Mr. Glebov will speak in the name of members of the United Nations Secretariat. And so among the vice presidents who are here today, we expect not only those members who we see already on the stage waiting for this assembly to begin. There is Monsieur Alexandre Paradis. We believe, we are looking down upon this stage from a rather great height. We see Monsieur Alexandre, I beg your pardon, that is Mr. Andrew Cordier of the United States, who is executive assistant to Mr. Trygve Lie. We believe that the Secretary of State Marshal of the United States will be here. We have not been informed of who will lead the United Kingdom delegation, nor the other delegations among whom the seven vice presidents of the Assembly are to be found. Now, as we said just a moment ago, all of the lights of the theater have been lowered. Looking down, we see in front of the stage of this theater five more flags of the United Nations, the same emblem, in white against a field of light blue. And that forms a kind of forward drop in front of the 58 United Nations member state flags and the emblem of the United Nations. Incidentally, Mr. Robert Schuman, the foreign minister of France, has just come in. Ambassador Herman Santa Cruz of Chile, who is one of the vice presidents of the Assembly, is here, as is Mr. Modzelewski of Poland, who is foreign minister of Poland and another of the seven vice presidents of this third regular session of the United Nations Assembly. And now there is a momentary hush in this hall. We are listening to the sounds which come to us from the theater and through our earphones here in our radio booth. Here are the guards of the United Nations who have just removed the flags from their pedestals or their sockets. There are the members of the staff of trumpeters of the Paris police who have just come in full dress uniform, wearing blue tunics with red fourragères and white gloves. They are standing at attention. In just a moment, you will hear the sound of To the Colors, and this ceremony will then be on its way.
Now just a word in French. Déjà sur la scène du palais, du théâtre du palais de Chaillot, se trouvent le président de l'Assemblée générale, les 7 vice-présidents, les présidents des 6 commissions de l'Assemblée, les secrétaires généraux des Nations Unies qui se trouvent à Paris, c'est-à-dire M. Trigveli et les secrétaires généraux adjoints. Nous voyons également les invités d'honneur, M. Robert Schuman, ministre des Affaires étrangères de la France, M. Jean Dupuis, président du comité exécutif de la Fédération mondiale des associations pour les Nations Unies, M. Glebov, que nous avons identifié tout à l'heure. Les clairons de la clique de la Parisienne sont déjà venus dans la salle. Ils sont en grande tenue aujourd'hui, tunique bleue, fourragère rouge, gants pur blanc. Et ils sont au garde à vous maintenant. Ils attendent. Voilà. Have just gone on in the Théâtre du Palais de Chaillot. Everyone in the theater is standing. Here is the preamble to the United Nations Charter. Et voici, pendant que tout le monde, dans cette vaste salle, se tient au garde à vous, le préambule de la Charte des Nations Unies.
Proclamer à nouveau notre foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité des droits des hommes et des femmes, ainsi que des nations grandes et petites, à créer les conditions nécessaires au maintien de la justice et du respect des obligations nées des traités et autres sources du droit international, à favoriser le progrès social et instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande et, à ces fins, à pratiquer la tolérance, à vivre en paix l'un avec l'autre dans un esprit de bon voisinage, à unir nos forces pour maintenir la paix et la sécurité internationale, à accepter des principes et instituer des méthodes garantissant qu'il ne sera pas fait usage de la force des armes, sauf dans l'intérêt commun, à recourir aux institutions internationales pour favoriser le progrès économique et social de tous les peuples. Avons décidé d'associer nos efforts pour réaliser ces desseins. En conséquence, nos gouvernements respectifs, par l'intermédiaire de leurs représentants réunis dans la ville de San Francisco et munis de pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, ont adopté la présente Charte des Nations Unies et établi par les présentes une organisation internationale qui prendra le nom de Nations Unies.
The theater is now fully lighted. Mr. Benjamin Cohen, Assistant Secretary General of the United Nations, has gone to the podium. The United Nations flags are in place. The throng in attendance here is being seated.
Excellent.
Et voici maintenant Monsieur Benjamin Cohen, Secrétaire Général Adjoint des Nations Unies.
Mes chers collègues du Secrétariat des Nations Unies, nous vous souhaitons la bienvenue et nous apprécions vivement votre présence à cette célébration de la Journée des Nations Unies, qui est également fêtée dans le monde entier par tous les peuples qui ont foi dans les buts et les principes de la Charte de San Francisco. Il est tout à fait naturel qu'un porte-parole de la noble nation française qui nous reçoit d'une façon si généreuse et si charmante, s'adresse maintenant à vous. J'ai l'honneur de prier l'éminent homme d'État qui s'est fait le champion de la cause des Nations Unies, Son Excellence Monsieur Robert Schuman, ministre des Affaires étrangères de la République française, de bien vouloir monter à la tribune. Monsieur Robert Schuman, de tout son cœur et de toute sa claire intelligence, s'est dévoué au triomphe des grands espoirs de paix qui sont nés pendant les jours tragiques de la guerre. Monsieur Schumann.
The applause which you hear is for His Excellency Monsieur Robert Schumann, French Foreign Minister.
Mesdames, Messieurs, c'est la première commémoration de la Journée des Nations Unies et en même temps le troisième anniversaire de la Charte. Ce rapprochement des dates prouve que les débuts de notre organisation ont été difficiles et timides. Dès 1945, les fondateurs ont senti les obstacles qu'il faudrait surmonter. Ils ont éprouvé plus de réticence dans la construction d'un monde nouveau qu'il n'y en avait eu dans l'organisation de la défense commune contre l'oppression et contre la tyrannie. Il y avait d'autre part le souvenir des échecs de la Société des Nations pour nous mettre en garde contre un optimisme candide. Et comme entrée en jeu, les Nations Unies ont trouvé sur leur route des problèmes les plus délicats, les plus aigus, accumulés comme par plaisir dans toutes les parties du monde. Pour s'en rendre compte, il suffit de lire aujourd'hui encore la nomenclature de nos ordres du jour. Malgré tout cela, nous regardons l'avenir avec confiance. Notre organisation porte les espoirs du monde. Elle est l'ultime recours contre le découragement qui paralyse et qui accepte d'avance toutes les catastrophes. Nous sentons aussi le poids de nos responsabilités, des responsabilités qui pèsent sur nous. Nous n'avons pas le droit de décevoir ceux qui placent entre nos mains leur sort et leur avenir, ni les peuples, ni les individus en détresse. Certes, nos conceptions idéologiques, nos civilisations, nos régimes politiques diffèrent profondément, autant que les langues que nous parlons. Le monde sera toujours complexe et divers. Mais c'est cette diversité qui postule à la fois le libre épanouissement de la personne humaine et les garanties démocratiques. Un observateur sceptique ou simplement critique, se plaira à souligner l'exiguïté et la précarité des résultats obtenus. Nous n'avons certes pas la prétention d'avoir déjà renouvelé les assises du monde, d'être parvenus à créer une communauté humaine à l'abri de la misère et de la violence. Mais nous tous, nous y travaillons avec ferveur. Nous évitons déjà les heurts. Nous retardons les conflits en recherchant la conciliation. Personne ne devra plus à l'avenir oser défier l'autorité des Nations Unies. Et cette autorité ne se mesure plus d'après la puissance matérielle des États. Les considérations morales devront l'emporter de plus en plus contre le cynisme des forces brutales. Qu'il me soit permis d'évoquer ici l'histoire de notre nation française qui, en maintes circonstances, a été au service de l'humanité plus qu'à la recherche d'intérêts égoïstes. L'amitié et la confiance que nous témoignent aujourd'hui, tant de peuples représentés aussi, sont pour la France une récompense et pour nous tous un encouragement. Plus nous saurons servir un idéal au-dessus de nos intérêts particuliers, plus nous consoliderons notre place dans le monde. Mesdames et messieurs, au nom de la nation française, je formule des vœux pour que notre organisation, de plus en plus fidèle aux principes inscrits dans la charte qu'on vient de vous relire, que cette organisation remplisse sa grande mission de paix et de concorde à travers le monde.
Vous entendez maintenant les applaudissements. Discours de M. Robert Schuman. Voici M. Cohen, secrétaire général adjoint.
Les Nations Unies ne constituent pas seulement une association d'États travaillant ensemble au maintien de la paix internationale et à l'établissement d'un bonheur général parmi les peuples à travers le monde. Les Nations Unies sont aussi le porte-parole de tous les peuples, dont les idéaux sont la compréhension et la collaboration internationale. Elles doivent donc se charger de les traduire sous leur forme pratique. Il est par conséquent souhaitable, maintenant que je donne la parole au président de la commission exécutive de la Fédération mondiale des associations pour les Nations unies, M. Jean Dupuis, qui va vous transmettre le message des peuples. Monsieur Dupuis.
Mr. Benjamin Cohen has just introduced Monsieur Jean Dupuis, President of the Executive Committee of the World Federation of United Nations Associations.
Mesdames et messieurs, en ce jour anniversaire de l'entrée en vigueur de la Charte de San Francisco, nous nous imaginons difficilement que l'événement que nous célébrons n'est vieux que de 3 ans. Déjà, la crainte d'un nouveau conflit hante beaucoup d'esprits. Que la menace soit fondée ou non, il reste certain qu'il est malaisé, sinon impossible, d'augmenter le bien-être et la sécurité dans tous les foyers, alors que subsiste cette atmosphère de peur et de méfiance qui caractérise les rapports internationaux actuels. Le rappel de cette réalité fondamentale n'a d'autre objet que de vous convaincre, si c'était nécessaire, que ceux qui apportent leur appui fidèle à l'Organisation des Nations Unies ne sont pas, comme certains voudraient le faire croire, des rêveurs, des aveugles ou des utopistes. Puisque j'ai l'honneur d'être leur interprète aujourd'hui, et je ne parle ici qu'à ce titre, je vous donne l'assurance que nous sommes terriblement conscients des obstacles qui ont été élevés sur la route des Nations Unies. Comme il n'est pas possible, qu'on le veuille ou non, d'envisager l'organisation véritable d'une longue paix, en dehors de l'institution qui a été créée à cet effet, nous nous sommes rassemblés dans le monde entier pour la défense des principes de la Charte des peuples. Je me souviens, pour avoir assisté à San Francisco à la naissance de cette Charte, qu'elle fut uniquement le fruit de la sagesse et de la raison. Ses auteurs, et ils sont nombreux dans cette salle, n'ont jamais manifesté un enthousiasme injustifié, ni cédé à des illusions. Non, dans l'immense soulagement que nous a porté la victoire, notre joie est restée grave. C'est parce que nous serrons de près la réalité que nous concevons que l'Organisation des Nations Unies représente plus et mieux qu'un point de rencontre indispensable, mais aussi un instrument toujours susceptible d'être perfectionné, et dont le rendement et l'efficacité dépendent essentiellement de la volonté des gouvernements. C'est donc vers les gouvernements, vers tous les gouvernements, que nous nous retournons à l'heure des grandes décisions. Pour rappeler une fois de plus les sentiments profonds des centaines de millions d'êtres humains qui, depuis trop longtemps, sont écrasés par la double charge des guerres passées et des préparatifs d'une nouvelle. On sait qu'on ne fait jamais appel en vain à leur esprit de sacrifice et à leur patriotisme. Mais un autre fait doit dominer nos préoccupations. L'abri, n'est-il pas vrai, devrait comporter autre chose que des souffrances et des actes d'héroïsme. L'Organisation des Nations Unies a, parmi ses nombreux mérites, celui de permettre une action commune des opinions publiques et des gouvernements, non seulement à l'intérieur de nos pays respectifs, mais aussi sur le plan international. L'organisation... La paix paraissait définitivement assurée, notre action serait un luxe. Alors que nous sommes loin du but, c'est une nécessité. C'est dire que nous saurions garder la foi alors même que les événements nous feraient perdre l'espérance. Cependant, de plus en plus, approche l'heure où il faudra choisir. Que ce soit grâce à nos volontés unanimes pour organiser dans le droit et la liberté la sécurité et la paix du monde.
Vous avez entendu la locution de M. Jean Dupuis, président du comité exécutif de la Fédération mondiale des associations pour les Nations Unies. Voici M. Cohen. Here is Mr. Benjamin Cohen, Secretary General of the United Nations, who is acting as president of this celebration.
Nous sommes profondément fiers de dire qu'inspirés et dirigés par le secrétaire général, M. Trigvili, nous avons formé une équipe qui loyalement unit toutes nos énergies pour les mettre au service des idéaux des Nations Unies et dont chaque membre individuellement est toujours prêt à consentir n'importe quel sacrifice, même celui de la vie, pour le triomphe et la réalisation des principes de la Charte de San Francisco. Monsieur Nicolas Glebov, président de la Commission du personnel, va maintenant vous parler en notre nom. Monsieur Glebov.
The applause which you hear now is for Mr. Nicolas Glebov, president of the Staff Association of the United Nations Secretariat.
Monsieur le président de l'Assemblée générale, Monsieur le secrétaire général, Excellences, Messieurs les représentants, Mesdames et Messieurs. En ma qualité de membre du secrétariat des Nations Unies, je voudrais dire en quelques mots ce que signifie pour nous ce jour consacré aux Nations Unies. Tout d'abord, il nous rappelle quelques souvenirs. Il nous rappelle l'émotion que chacun de nous a ressentie lorsqu'à l'issue de la dernière guerre, mûri par nos expériences et par nos déboires, et conscient de la souffrance qui nous entourait, soit dans notre propre pays, soit dans un pays voisin, nous avons décidé d'apporter notre contribution individuelle à l'Organisation des Nations Unies. Nous nous souvenons de la première lecture du serment que nous avons prêté à cette organisation, serment qui exprime les espoirs de tous les hommes de bonne volonté. Nous nous souvenons de la volonté qui nous animait de donner le meilleur de nous-mêmes dans la poursuite de cette grande tâche. Les mois, les années se sont écoulées. Le serment que nous avons prêté est plus que jamais l'expression généreuse d'une espérance pour l'avenir, d'une réalité pour le présent. Comme toujours, au contact des réalités, notre idéal a eu à souffrir. nos idées, nos espérances planaient trop haut, tandis que nous travaillions au niveau du sol. Mais le désir personnel, l'idéal personnel, sont devenus un désir et un idéal généraux. Nous sentons le développement sans cesse grandissant de notre esprit de corps. Des liens nous rattachent à New York, à Genève, à la Palestine, à la Corée, où nos collègues font le même travail et offrent aux mêmes organismes le même dévouement. Nous avons cru avoir l'esprit international en entrant au service des Nations Unies. Nous sommes surpris de voir le chemin parcouru, de constater que par-delà nos affinités nationales, le serment que nous avons prêté a exercé son influence. Aujourd'hui, nous sommes plus à même d'apprécier la tâche énorme à laquelle notre organisation s'est attelée. Nous sentons plus que jamais ce qu'elle représente aux yeux angoissés du monde. Nous sommes plus que jamais conscients du sens du serment que nous avons prêté. Et nous sommes fiers de constater que malgré les difficultés de l'heure présente, ce qu'on aurait pu croire impossible ou tout au moins prématuré est en voie d'accomplissement. Nous sommes vraiment devenus le personnel international de cette organisation internationale qui commémore aujourd'hui son anniversaire.
Vous venez d'entendre M. Nicolas Gleba, président du comité du personnel des Nations Unies. That was Mr. Gleba, president of the Staff Association of the United Nations Secretariat. Here is Mr. Benjamin Cohen once again. Voici M. Cohen.
Et le développement des Nations Unies, que le grand homme d'État qui va maintenant clôturer cette cérémonie. C'est le représentant d'une des nations les plus évoluées et les plus en avance sur le chemin du progrès de notre époque. Il est le porte-parole d'un peuple qui a fait et qui continue à faire les plus formidables efforts en vue du triomphe des idéaux des Nations Unies. J'ai donc maintenant le grand honneur de donner la parole au Right Honorable Herbert Evatt, vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères d'Australie, président respecté de la troisième séance de l'Assemblée générale des Nations Unies.
Here now is the applause marking the appearance at the Speaker's rostrum of Dr. Herbert Evatt of Australia.
Fellow delegates, ladies and gentlemen, the United Nations was established to maintain international peace and security, to develop friendly relations among nations, to achieve international cooperation in solving problems of an economic or social or cultural or humanitarian character, and to promote respect for human rights and for fundamental freedoms. And I submit to you that the past 3 years give an impressive record of solid work by the United Nations in all of these great fields of noble endeavour. We can point with confidence to the achievements of the United Nations. And one way in which to test that is this. Let us try and imagine what might have happened, what probably would have happened, if these United Nations had not existed. If there'd been no organisation to bring the great and small powers together regularly and with a specific purpose of working together to find solutions to difficult international problems according to the great principles of a universally accepted charter. Our great aim is peace, and our greatest enemy is war. Pessimism regarding the United Nations, particularly on the political side, maintaining peace and security, is unfortunately a habit among some people. Cynicism, a reluctance to accept new ideas, mental inertia, even laziness, and willingness to fight for the principles of the Charter. These are some of the forces that operate against us and encourage some other people to try and sabotage the United Nations by constantly proclaiming that our difficulties will and must overwhelm us. Don't believe them. The answer to these professional girls is to be found in the practical work of the past 3 years. In this period, ladies and gentlemen, disputes have arisen in many parts of the world. Actual fighting has broken out in areas so far removed from each other as Palestine, Indonesia, Kashmir, to take 3 examples. In each case, the United Nations has been able to intervene, to point the way towards solutions, or at the very least, to ease the tension, to bring the parties together. And in all cases where fighting occurred, the United Nations has been able either to end it or severely to limit it. And bloodshed and the death of people, thousands of people, many thousands of people, have thus been averted by the United Nations. The principles of the Charter have been asserted. The parties to the dispute have been brought to realise the obligations which they themselves accepted in the Charter, which they owe not only to their own people, but to all mankind. And second, the United Nations has also a very impressive record in its problem of tackling the economic and social problems throughout the world, in relieving distress, in working to raise standards of living everywhere. It's here that the greatest work of the organisation can lie, because by relieving economic tension, political tension can be eased and international cooperation can be strengthened. The Economic Council, the Economic and Social Council, and its agencies provide the basic organisation for this work. And good practical work is being also performed by the specialised agencies, such as the International Labour Office with its magnificent history. Great work in relieving the sufferings of children. Children in war-damaged areas, and indeed all over the world, is being done by the United Nations Children's Fund. And that work is so important that millions of people throughout the world have contributed their small savings voluntarily through the United Nations Appeal for Children. And third, the third basic task and opportunity is the assertion and protection of human rights everywhere. And here the present session of the Assembly, this Assembly, can make, and I believe it will make, a great and lasting contribution to the world, because the Assembly is now considering a declaration of human rights according to reports carefully prepared by a special United Nations Commission and considered by our Economic and Social Council. The Assembly is also considering a convention to prevent and punish genocide, that international crime which consists of destroying groups of people on religious or racial grounds, a crime brought vividly before us in the last 15 years by the evil attempts of Hitler to destroy the Jews, the Poles, and other peoples. And the adoption of these great proposals by the Assembly will be a notable step forward in this important third branch of our task. And I'm speaking today, if I may, not only to my fellow delegates here in the Assembly, but particularly to the splendid gathering of the public, the general public, who've come here to support us today. Because the United Nations doesn't belong to the governments of the world. It doesn't belong to governments or diplomats or officials or secretariats. It belongs to the people of the world who hunger for peace, who hunger for decent conditions. They don't want much, just ordinary decent conditions, not so much for themselves as for their children. For decent standards of living, for freedom to live their lives in secure surroundings and in just surroundings. And it's the task of this organisation to represent these aspirations of every human person throughout the world. And it's your duty, and I'm speaking now to members of the public, it's your duty in all countries to give full support to this great organisation, to know something of its purposes and its actual achievements, and to support and stimulate your representatives to the governments throughout the world as they come to be represented at the Assembly or other organs of the United Nations. The fact is, ladies and gentlemen, that the United Nations is greater than all the countries that comprise it. This assembly is greater than all the nations that are represented in it. And I can see during this present session of the assembly a change has come over the scene. The assembly in its corporate life, a body of men and women devoted to the ideals of the United Nations, has a corporate influence and affects all the delegates. And that affects public opinion in all the countries of the world. And I see a great difference for the better as we proceed here with our work. The spirit of the Assembly, the spirit of the United Nations, the spirit of San Francisco is gradually making itself more evident. It should do so. Great men contributed to the Charter. Men like Franklin Delano Roosevelt. Don't let us forget the illustrious example, and let us try to follow worthily in his footsteps. One point more. It was said that the League of Nations failed the world. The statement was simply not true. The League of Nations never failed the people of the world. It was the governments of the world that failed the League of Nations. And the United Nations can only fail so far as the governments of the world fail to support the United Nations. And so, nous célébrons aujourd'hui la Journée des Nations Unies. En cette occasion, tous les peuples du monde doivent s'unir au toit de l'Organisation Internationale et décider de lui donner tout leur appui afin d'atteindre les buts fixés par la Charte. Nous devons asseoir la paix sur des bases solides et éviter la guerre par le règlement de tous les conflits internationaux conformément au principe de la Charte par l'entremise des Nations Unies. Nous devons tendre à élever les conditions de vie et le bien-être humain à travers le monde par la coopération internationale. Nous devons affirmer et faire respecter les droits de l'homme et les libertés fondamentales dans tous les pays du monde. Telles sont nos tâches. Les tâches en vue desquelles les Nations Unies ont été créées. L'Assemblée générale se réunit aujourd'hui dans la magnifique ville de Paris, centre de l'une des plus grandes civilisations du monde. Car, mesdames et messieurs, tout homme a deux patries, la sienne et la France. And c'est ici, à Paris, que 58 nations coopèrent pour organiser la paix et améliorer la condition humaine. Je demande au peuple du monde de nous aider dans notre mission, car c'est pour eux que les Nations Unies ont été créées et grâce à eux peuvent atteindre le but.
Vous venez d'entendre M. Herbert Evatt de l'Australie, président de la troisième session régulière de l'Assemblée générale, qui a pris la parole tout d'abord en anglais, puis en français. The applause which you hear is for Dr. Herbert Evatt of Australia, president of this General Assembly, who ended his statement in French, and who has won the enthusiasm of the crowd in the audience here at the Palais de Chaillot. Here is Mr. Cohen.
Nous vous remercions encore une fois d'être venus nous accompagner. Et vous, nous vous désirons une belle soirée. Merci.
This is the United Nations broadcasting to you from the Palais de Chaillot in Paris. During our broadcast, you have heard a ceremony which has taken place here to commemorate United Nations Day. During this ceremony, which was presided over by Mr. Benjamin Cohen of Chile, Assistant Secretary General of the United Nations in charge of public information, you have heard His Excellency Mr. Robert Schuman, Foreign Minister of France, Monsieur Jean Dupuis, President of the Executive Committee of the World Association of United Nations Associations. You have heard Mr. Nicholas Glebov, President of the United Nations Staff Association. And lastly, Dr. Herbert Evatt of Australia, President of this session of the United Nations General Assembly. In this brilliantly lighted theater, which has provided a colorful background for the speeches which you heard this afternoon in English and in French, the lights of the theater vied with the colorful dresses and suits of the people who have attended, who have come here from Paris, from all parts of Europe, and certainly from the 58 nations comprising the United Nations, and who have paid their tribute to the United Nations in its efforts to live up to the preamble of the United Nations Charter, which was read to you in French at the beginning of this session. On the platform, in addition to those members of the United Nations and its interested organizations who spoke this afternoon, were other members of the Secretary General's office, Mr. Trygve Lie, Mr. Arkady Sobolev, several other Assistant Secretaries General. There were the seven vice presidents of this third regular session of the General Assembly, the presidents of the six committees, and the invited guests. In this great hall, members of the delegations, 58 of them, to the United Nations, their guests, the world press and the world radio, members of affiliated organizations, and people who have come here to pay their tribute to United Nations Day. United Nations Day, the 24th of October, will be celebrated tomorrow in all the 58 member nations of the United Nations organization. And this marks the end of our broadcast, which has come to you from the Palais de Chaillot in Paris this afternoon. Over 7,280 kilocycles in the 41-meter band, beamed toward France and Europe in general. Over 15,240 kilocycles in the 19-meter band for the Soviet Union, and over 17,765 kilocycles in the 16-meter band beamed toward the United States of America. These transmitters were placed at the disposal of the United Nations by the Radiodiffusion Française. This is the United Nations. Ici la Radio des Nations Unies. Vous avez entendu au cours de notre émission la cérémonie qui s'est déroulée ici au Palais de Chaillot à Paris pour commémorer la Journée des Nations Unies. La Journée des Nations Unies, le 24 octobre, sera observée et célébrée demain dans les 58 pays membres des Nations Unies. Et aujourd'hui, la cérémonie à laquelle vous avez assisté par la voix radiophonique a marqué le début de ces célébrations, de ces manifestations dans tous ces pays du monde. Au cours de la cérémonie, vous avez entendu M. Benjamin Cohen de Chili, secrétaire général adjoint des Nations Unies, chargé de l'information. M. Cohen a présidé cette cérémonie. Ensuite, vous avez entendu une allocution de Son Excellence M. Robert Schuman, ministre des Affaires étrangères de la France. M. Jean Dupuis, président du comité exécutif de la Fédération mondiale des associations pour les Nations Unies, a également pris la parole, ainsi que M. Nicolas Glebov, président du comité du personnel des Nations Unies. Et puis, vers la fin de cette cérémonie, vous avez entendu M. Herbert Evatt, président de la troisième session régulière de l'Assemblée générale des Nations Unies. M. Evatt, qui est ministre des Affaires étrangères de l'Australie, a pris la parole tout d'abord en anglais. Il a terminé son discours en français et a gagné ainsi l'enthousiasme des foules qui sont venues ici au Palais de Chaillot aujourd'hui pour célébrer la Journée des Nations Unies dans ce théâtre qui était si brillamment illuminé et où la cérémonie a été ouverte par les clairons de la clique de la Parisienne qui ont sonné au drapeau. Ceci termine maintenant notre émission du Palais de Chaillot qui vous est parvenue sur 7280 kilocycles dans la bande des 41 mètres pour la France et pour l'Europe en général. Sur 15240 kilocycles dans la bande des 19 mètres à destination de l'Union soviétique et sur 17765 kilocycles dans la bande des 16 mètres, dirigée vers l'Amérique du Nord. Ces émetteurs ont été mis à la disposition des Nations Unies par la radiodiffusion française. Ici, les Nations Unies qui vous disent bonsoir et à lundi. Ceci termine notre émission.